Vous écoutez bien Radio France Internationale. Il est midi et demi en temps universel, une heure de plus à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sieur.
Bonjour Anne Kantner, bonjour à toutes et à tous. L'Assemblée générale élective de la CAF ce matin au Caire en Égypte. Sans surprise, le Sud-Africain Patrice Motsepe est reconduit à la tête de la Confédération africaine de football. Par ailleurs, le Camerounais Samuel Eto'o et une Congolaise de la RDC, Pestine Kazadi, font leur entrée au sein de son comité exécutif. Le président angolais João Lourenço annonce travailler à des discussions directes entre le gouvernement congolais et le groupe armé M23. Jusqu'à présent, la RDC les refuse ces discussions directes. Félix Tshisekedi estime que les seules négociations possibles sont à mener avec le Rwanda. Nous reviendrons aussi dans Afrique Midi sur la tournée du président ghanéen John Dramani Mahama dans les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina. Le chef d'État ghanéen a affirmé la nécessité que la CDAO, la communauté ouest-africaine, reconnaisse l'AES, l'Alliance des États du Sahel. On en parle dans la deuxième partie du journal avec l'économiste malien Modibo Mao Makalou. Il est notre invité. L'Assemblée générale élective de la CAF, la Confédération africaine de football, se déroulait donc ce matin en Égypte, au Caire. Au menu, le renouvellement pour moitié du comité exécutif de l'instance fêtière du football continental, l'élection des 6 membres africains au conseil de la FIFA, et bien sûr, Olivier Pron, la reconduction du Sud-Africain Patrice Motsepe à la présidence de cette CAF.
Ah, il n'y avait pas vraiment de suspense, Nicolas. Patrice Motsepe était seul candidat à sa propre succession. Le milliardaire sud-africain, 9e fortune du continent, est donc reconduit jusqu'en 2029 sous des applaudissements que l'on peut qualifier de timide, sans acclamation, donc en tout cas devant le patron de la FIFA, Gianni Infantino, qui avait beaucoup œuvré, on s'en souvient, en coulisses il y a 4 ans pour son élection. Son soutien évidemment ne se dément pas. À côté COMEX de cette CAF, le comité exécutif, comme attendu et sans concurrence dans sa zone, Samuel Eto'o fait son entrée. Le président de la FECAFOOT ne devrait cependant pas être vice-président. Il aurait décliné la proposition de Patrice Motsepe au profit du Gabonais Pierre-Alain Mungengi, un peu plus âgé que lui. A noté également l'entrée dans ce comité exécutif de la CAF, et c'est une première pour le pays d'une Congolaise, Pestine Kazadi, ex-présidente de l'ASV Club de Kinshasa, et qui devrait prendre, elle, la place de 5e vice-présidente de cette CAF.
Et au-delà de la CAF, Olivier, l'Afrique renouvelait également ce matin ses représentants au sein du conseil de la FIFA.
Et il y a eu match, Nicolas, après le retrait du Béninois Mathurin de Chacus. 9 candidats étaient en liste chez les hommes pour 5 places, et les heureux élus sont, sans surprise, le Marocain Fouzi Legja. Le Maroc a plutôt le vent en poupe côté foot sur le continent. Fouzi Legja et l'Égyptien Ali Abou Rida, 71 ans, on a changé quelques normes pour lui permettre de se présenter encore. Candidats sortant tous les deux et donc réélus, les rejoignent Souleymane Waberi, le Djiboutien, Mohamed Yahya, l'ambitieux Mauritanien, et ça c'est une vraie surprise, le Nigérien Amadou Djibrila Ima, dit colonel Pelé, 2e au nombre de voix. Chez les femmes, une place à prendre, et c'est la Comorienne Kanizet Ibrahim qui l'emporte assez nettement devant la Burundaise Lydia Nsekera et la sortante, la Sierra Leonaise Isha Johansen.
Merci Olivier Pron. Une nouvelle rencontre hier à Luanda entre le président angolais João Lourenço, qui vient de prendre la tête de l'Union africaine, et le président congolais Félix Tshisekedi pour discuter de la crise dans l'est de la RDC. Une nouvelle rencontre et une annonce remarquée du président angolais, Pauline Azidi, des discussions pourraient s'ouvrir entre Kinshasa et le M23.
Oui, c'est en tête-à-tête que les présidents Tshisekedi et Lourenço se sont donc entretenus. Le déplacement du président congolais a été gardé secret jusqu'à la communication de la présidence angolaise, qui a annoncé hier soir, vous l'avez dit, qu'elle allait, je cite, « établir des contacts avec le M23 afin que les délégations de la RDC et du M23 mènent des négociations directes à Luanda dans les prochains jours en vue de négocier une paix définitive dans ce pays frère ». Du côté de Kinshasa, la porte-parole de la présidence assure sûr que les autorités prennent acte et attendent de voir la mise en œuvre de cette démarche angolaise. Et Tina Salama de rappeler qu'un cadre de dialogue existe déjà dans le processus dit de Nairobi. La RDC renvoie à ce cadre ainsi qu'à la dernière résolution des Nations Unies, la 2773, qui évoque les processus de Nairobi mais aussi celui de Luanda et surtout reconnaît la responsabilité du Rwanda dans la crise actuelle.
Alors rappelons que depuis le début du conflit, la RDC a fait de ces discussions directes une ligne rouge.
Oui, le président Tshisekedi l'a rappelé plusieurs fois, estimant que toute négociation devait se faire avec le Rwanda, le maître du M23, a encore affirmé le chef de l'État congolais fin février. Est-ce que cette ligne rouge va être franchie ? Non, répondent plusieurs sources congolaises, puisque Kinshasa met en avant, comme à chaque fois, le passage par un processus, celui de Nairobi, qui, je vous le rappelle, encadre les discussions entre les groupes armés et le pouvoir central. En tous les cas, cette annonce angolaise s'inscrit avant deux événements importants. Un sommet de la région d'Afrique australe consacré à la RDC prévu demain, alors que le 4 avril, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui doit se réunir de nouveau sur cette question.
Pauline Azidi en direct de Kinshasa. Pendant ce temps, en Ituri, au nord du Nord Kivu, les lignes semblent aussi bouger. Un ancien condamné de la Cour pénale internationale s'apprête en effet à lancer un nouveau mouvement politico-militaire. Il s'agit de Thomas Lubanga, libéré en 2020 après 14 ans de prison pour avoir enrôlé des enfants soldats dans cette même province au début des années 2000. Depuis l'Ouganda où il est accusé, il accuse à présent Kinshasa de négliger l'Ituri au profit des crises sécuritaires des Kivu. Une marginalisation qui justifierait selon lui de reprendre les armes. Patient Ligodi, que sait-on de ce nouveau mouvement ?
Le mouvement s'appelle Convention pour la Révolution Populaire et dispose d'une branche armée, les Forces pour la Révolution Populaire, FRP. Les premières réunions formelles ont eu lieu en janvier et février à Kampala avec des représentants de groupes armés ituriens dont la FRPI qui fut l'un des plus grands mouvements armés de la province et le groupe Zaïre. Un protocole d'accord a été signé définissant les bases d'un mouvement politico-militaire. Le colonel Justin Lobozissi, un officier de forces armées de la RDC, y occupe une place importante selon plusieurs sources. Le mouvement rejette tout lien avec l'FCM23, contrairement aux accusations des experts de l'ONU qui évoquent des connexions indirectes. Selon ses membres, il s'agit d'une tentative de délégitimation auprès de la population congolaise. Mais le mouvement est-il déjà en action ? C'est la question que l'on peut se poser. Ses représentants refusent de répondre. Pourtant, l'armée congolaise assure que ses combattants sont responsables d'attaques dans certaines localités du territoire des Djougou, notamment à Nyamamba, à Datoulé, chefferie de Baïma Baniwagi, dans le territoire des Djougou. Leur objectif, selon Kinshasa, serait de progresser vers Chomia, une ville située à 90 km de Bunia, sur les rives du lac Albert, qui marque la frontière avec l'Ouganda. Face à cette situation, l'armée congolaise assure qu'il s'agit d'un mouvement sans avenir, affirmant que plusieurs communautés locales ont déjà rejeté cette nouvelle rébellion.
Au Tchad, le journaliste Olivier Monodji a été placé lundi sous mandat de dépôt à N'Djamena, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays et par ailleurs correspondant de RFI. Olivier Monodji a été inculpé avec un autre journaliste, un collaborateur occasionnel de son journal et un homme d'affaires, notamment pour intelligence avec une puissance étrangère, atteinte à la sûreté de l'État ou encore complot, des crimes passibles de peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison. Ce sont des publications dans Le Pays qui sont mises en cause, des publications qui ne justifient pas de telles inculpations, s'étonne Abbas Mahamoud, le président de l'Union des journalistes tchadiens, qui a assisté aux auditions.
Pour nous, le procureur de la République, il a mal qualifié le fait. Selon ce que nous avons écouté, ils ont publié des articles dans différents journaux. L'un a traduit seulement un article, l'a publié dans un journal. On reproche à Olivier d'avoir publier un article et un public reportage dans son journal et d'avoir partagé des informations qui concernent l'économie du pays, des informations accessibles à tout le monde. Jusqu'à maintenant, on n'a pas montré la sensibilité ou la gravité des informations partagées. Donc, ce que nous avons vu, c'est un public reportage. Donc, même s'il y a un crime, même s'il y a un délit, c'est un délit de presse. Et quand c'est un délit de presse, c'est dépénalisé. Normalement, il ne devrait pas rester en prison, il devrait avoir n'est-ce pas, la possibilité de comparaître librement devant le juge. C'est pourquoi, pour le JT, c'est une détention arbitraire et il faut qu'on respecte les procédures pénales et les dispositions de la loi en cette situation.
Des propos recueillis par Esdras Dikoumana. J'ajoute que dans un communiqué diffusé ce matin, la direction de RFI assure être en contact quotidien avec l'avocat d'Olivier Monodji et suivre de près l'évolution du dossier. Elle rappelle que les motifs de l'inculpation de notre confrère ne relèvent pas du délit de presse et aussi qu'elles sont sans rapport avec sa production pour RFI. Les autorités sénégalaises inquiètes et indignées face aux conditions dans lesquelles ces ressortissants migrants ont été expulsés de la Mauritanie voisine ces derniers jours. Léa-Lisa Westerhoff, c'est ce qui ressort d'un rapport parlementaire et de déclarations hier de la ministre des Affaires étrangères, Yacine Fall, lors d'une plénière à l'Assemblée nationale.
Oui, Nicolas, interpellée sur le sujet par plusieurs députés, la ministre des Affaires étrangères a dit regretter les conditions d'arrestation et d'expulsion des Sénégalais depuis la Mauritanie ces derniers jours. Bien sûr, chaque pays a ses lois, a déclaré Yacine Fall à la presse, mais on doit respecter les droits des personnes et, je cite, ne pas maltraiter, comme on l'a vu récemment, a-t-elle dit, la ministre qui, devant une commission parlementaire, avait évoqué des traitements inhumains subis par les personnes rapatriées depuis la Mauritanie. Des discussions avec les autorités mauritaniennes sont en cours, a également affirmé la chef de la diplomatie sénégalaise. Se voulant rassurante, Yacine Fall a assuré que d'ici la fin du mois de mars, les choses allaient s'améliorer avec la promesse de la Mauritanie de transmettre au Sénégal les modalités d'obtention du titre de séjour et de la carte de résidence pour les Sénégalais.
Toutefois, l'inquiétude reste forte chez les acteurs locaux et les ONG qui dénoncent une vaste campagne d'arrestation et de refoulement de migrants en situation irrégulière dans ce pays.
Oui, les refoulements tout azimut à destination des subsahariens sans prendre le temps de vérifier si les personnes ont des titres de séjour ou non, selon l'association mauritanienne des droits de l'homme. Au Sénégal, les autorités locales confirment qu'au poste frontière de Rosso, depuis 10 jours, 30 à 40 subsahariens sont refoulés quotidiennement. 80% sont des Sénégalais, là encore sans vérifier si ces personnes ont des titres de séjour en règle. Les ONG qui confirment également des cas de rafles à domicile dans tout le pays et de mauvais traitements en détention de la part des autorités mauritaniennes.
Léa-Lisa Westerhoff en direct de Dakar.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, le bilan de la tournée du président ghanéen John Dramani Mahama dans les trois pays de l'AES. Et en Guinée, le gouvernement annonce le limogeage et la mutation de trois responsables civils et militaires de la région de Nzérékoré. Le président ghanéen John Dramani Mahama a achevé lundi une tournée dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina. Le président ghanéen a tenu des propos qui ne sont pas passés inaperçus, évoquant la réalité irrévocable que constitue désormais l'AES. Il a aussi affirmé la nécessité que la CDAO, la communauté ouest-africaine, reconnaisse la nouvelle alliance. Pourquoi cette opération séduction du numéro 1 ghanéen ? Élément de réponse avec David Baché.
C'est une initiative du président ghanéen. Cela n'engage que lui. Voilà en substance ce qu'affirment plusieurs cadres de la CDAO qui assurent que la démarche n'avait pas été concertée. C'est une proposition que l'on entend, ça est là depuis quelques semaines, nuance un chercheur au large carnet d'adresses, estimant que cela donne une indication de ce que pourrait être l'objectif de la CDAO, non plus le retour des trois pays, mais l'établissement d'une coexistence pacifique. L'AES existe, c'est un fait. La reconnaître, c'est comme dire que le soleil se lève à l'est, ironise pour sa part un diplomate ouest-africain. Mais les militaires de l'AES veulent plus, poursuit cette source. Ils voudraient que l'AES soit reconnue comme une communauté économique régionale, au même titre que la CDAO ou la SADC, croit savoir ce diplomate. C'est une chimère. Selon cette source, John Dramani Mahama voudrait s'ériger en intermédiaire privilégié à la place de Faure, le président togolais. Objectif: renforcer sa stature et son influence sur le continent et s'assurer des débouchés économiques, notamment pour les ports ghanéens. Aucun chef d'État ouest-africain n'a réagi aux déclarations du président ghanéen jusqu'à présent.
En Guinée, le gouvernement annonce le limogeage et la mutation de 3 responsables civils et militaires de la région de Nzérékoré. Des sanctions qui surviennent après la bousculade meurtrière lors d'un match de football le 1er décembre dernier. Un mouvement de foule après des tirs de gaz lacrymogène lors d'un tournoi à la gloire de Mamadi Doumbouya. Bilan officiel, 56 morts, au moins 140 selon les ONG locales. Mais officiellement, pas de lien entre ce drame et les sanctions, Sidi Yansané.
L'annonce a été faite par un communiqué du ministère de l'administration territoriale lu durant le journal télévisé.
Président de la délégation spéciale de Nzérékoré est limogé pour faute lourde.
Mais le document ne précise pas la nature de cette faute lourde. Dans la même séquence, le ministère annonce que le gouverneur et le préfet de Nzérékoré, tous deux militaires, opèrent pour leur part un jeu de chaise musicale avec leurs homologues de 2 autres régions. Le préfet de Nzérékoré permute avec celui de Boké et le gouverneur avec celui de Mamou, là aussi sans plus de précision. Mais ces décisions coïncident avec le dépôt de la plainte de 98 familles de victimes qui accusent les hiérarchies militaires et civiles locales d'une quinzaine d'infractions, dont meurtre, homicide involontaire et recel de cadavres. L'avocat des familles, Maître Paul Lazare Bilimou, encourage les autorités de transition à aller plus loin.
Elle ferait mieux d'ailleurs de les démettre tous de leurs fonctions au lieu de les muter. Cela va permettre au procureur de mener mieux ses actions. Parce que n'oublions pas que le parquet est régi par la hiérarchie. Donc quelque part, il peut recevoir des instructions de part et d'autre. Nous entendons ce que les autres soient limogés et que ça ne se limite pas seulement au limogeage, mais qu'ils soient mis à la disposition de la justice.
La plainte des familles vise également le ministre de la Santé Félix Lama et celui des Sports Bogola Abba, tous deux présents au stade lors de la bousculade de Nzérékoré.
Retour au sport et au football. À une semaine de la reprise des éliminatoires de la Coupe du Monde, les tensions restent vives à la tête de la sélection centrafricaine. Un véritable bras de fer même entre Rigobert Song, nommé par le gouvernement, et Eloge Nza Yamisi, désigné par la fédération. Hier, lors d'une conférence de presse à Bangui, c'est Eloge Nza Yamisi qui a publié la liste des 25 joueurs qui affronteront Madagascar et le Mali les 19 et 24 mars prochains. À Bangui, Rolf Steph Domialeux.
Après des semaines de suspense, c'est désormais officiel. Eloge Nza Yamisi, nommé il y a 5 mois par la fédération, dirigera bel et bien les 2 prochaines rencontres des Fauves du Bazoubongui. Nommé quant à lui en janvier dernier par le gouvernement, le technicien camerounais Rigobert Song doit attendre que les choses se clarifient entre les 2 parties. Une situation qu'Eloge Nza Yamisi a refusé de commenter.
Moi, je parle pas de ça. On est là pour parler de ma liste. Les actualités avec Rigobert Song, ça me regarde pas. C'est le terrain qui nous intéresse. Le reste, ça nous intéresse pas.
5e du groupe I, derrière les Comores, le Ghana, Madagascar et le Mali, la Centrafrique a très peu de chances de raccrocher le wagon de la qualification pour le mondial. Cela n'empêche pas Eloge Nza Yamisi de se fixer des objectifs élevés.
Mon objectif, c'est d'aller là-bas et de prendre au moins 4 points sur les 6. Et si on peut prendre 6, on prend 6. On va là-bas pour essayer de se relancer dans ce groupe-là. C'est un travail sur long terme qu'on va faire, mais ça ne nous empêche pas d'être compétitif et d'aller là-bas, de donner le maximum.
Se relancer avec Eloge Nza Yamisi. Rigobert Song affirme que cette décision a été prise en collégialité entre lui, la fédération et le ministère des Sports afin d'échapper aux sanctions de la FIFA. Le technicien camerounais rajoute qu'il prendra officiellement ses fonctions après les 2 prochains matchs. Rolf Steve Domialeux, Bangui, RFI.
13h48 à Bangui, Anne Kantner, les grands titres de ce mercredi 12 mars.
La Russie attend une proposition officielle de Washington au lendemain d'un accord sur un cessez-le-feu de 30 jours élaboré par les États-Unis et l'Ukraine. Pour l'instant, Moscou met plutôt l'accent sur sa contre-offensive dans la région de Koursk, partiellement occupée par l'Ukraine depuis 7 mois. Médecins sans frontières dénonce l'utilisation de l'aide humanitaire comme monnaie d'échange par Israël dans la bande de Gaza, territoire privé d'accès à des fournitures vitales comme l'électricité ou la nourriture. La fin de la prise d'otages dans la région du Baloutchistan au Pakistan. 450 passagers d'un train ont pu être libérés. Mais les forces de sécurité n'ont toujours pas repris le contrôle de la situation. Les affrontements se poursuivent avec les combattants séparatistes baloutches. L'Union européenne qui annonce une riposte, une réponse proportionnée après l'augmentation de droits de douane sur l'acier et l'aluminium entrant aux États-Unis. Et puis vous parliez de football, Nicolas, il y a du foot à suivre en Europe. Suite des 8e de finale de la Ligue des Champions, Lille tentera l'exploit face à Dortmund. Aston Villa reçoit Bruges. Le vainqueur retrouvera le PSG en quart de finale. L'Atlético accueille l'autre grand club madrilène, le Real, et Arsenal défient le PSV Eindhoven. Et on revient à présent sur la tournée que vient d'effectuer le nouveau président ghanéen au Mali, au Niger et au Burkina. Ces trois pays ont claqué la porte de la CEDEAO. Ils sont désormais réunis au sein d'une alliance des États du Sahel que le président ghanéen appelle à reconnaître. Comment comprendre cette opération séduction de John Dramani Mahama? L'économiste malien Modibo Mao Makalou est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Modibo Mao Makalou.
Bonjour monsieur.
La CEDEAO doit reconnaître l'AES. Pourquoi, selon vous, le président ghanéen fait-il cette proposition?
Je pense que c'est une initiative personnelle du président du Ghana, mais qui quand même peut être salutaire parce que je pense que ça peut permettre de mieux amorcer les négociations, en tout cas qui ont lieu depuis janvier, entre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, les trois États, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Comme vous le savez, le départ est effectif depuis janvier 2025 des trois États de l'AES, de la CEDEAO. Mais par contre, les pourparlers sont encore en cours jusqu'au mois de juillet. Et vous savez aussi que le Mali préside actuellement la Confédération de l'Alliance des États du Sahel jusqu'au mois de juillet.
Vous nous dites, c'est une initiative personnelle de John Dramani Mahama. Il n'aurait pas l'aval de ses pairs de la CEDEAO.
Mais écoutez, vous savez, le dernier sommet de la CEDEAO a eu lieu en décembre 2024 et qu'un mandat clair a été donné au président du Sénégal pour mener les négociations entre la CEDEAO et les trois États de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, et que le président Bassirou Diomaye Faye est secondé par le président Faure Gnassingbé du Togo, et que ces négociations sont encore en cours. Et d'ailleurs, l'extension a été donnée parce que le président Faye a demandé une extension parce que il n'avait pas terminé le travail qu'il avait commencé. Donc je pense qu'il y a plusieurs fers au feu. Non seulement il y a la médiation officielle de la CEDEAO, mais par contre la mission entreprise par le président Dramani Mahama, je pense que non seulement elle est bilatérale, mais en même temps je pense qu'il fait une mission de bons offices aussi pour quand même établir un meilleur dialogue, un meilleur climat de dialogue entre la CEDEAO et la Confédération de l'AES.
Et quels sont les avantages dont dispose le président ghanéen par rapport aux autres médiateurs désignés par la CEDEAO?
Vous savez, déjà son prédécesseur John Akufo-Addo quand même avait essayé de faciliter le dialogue, mais cela ne s'est pas avéré un succès. Mais vous savez, le Ghana est quand même le chantre du panafricanisme et de l'intégration africaine. D'abord au niveau de la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, qui est devenue par la suite l'Union africaine, notamment le rôle éminent que le Ghana a joué à travers le président Kwame Nkrumah. Et vous savez aussi que le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine se trouve au Ghana. Donc évidemment, le Ghana, en tant que chantre du panafricanisme, a un rôle prépondérant dans l'intégration africaine, mais aussi le Ghana est un pays anglophone et qui peut mieux dialoguer, je pense, avec ces trois pays francophones qui sont quand même dans une passe un peu délicate avec certains de leurs voisins, surtout francophones. Mais je pense aussi que le président Dramani Mahama est vu avec un préjugé plutôt favorable.
Notamment parce que le Ghana n'aurait pas cette étiquette de complicité avec la France ou d'agir selon les intérêts de la France. C'est ça que vous nous dites?
Cela est très important, oui, parce que cela est vu comme une mission de bons offices d'un pays africain et qui n'agit pas pour le compte d'autres puissances, et je pense que cela aussi est très important pour ce dialogue, pour renouer ce dialogue. Et je pense aussi le fait que le Ghana vienne non seulement pour parler des relations entre l'AES et la CEDEAO, mais aussi sur le plan bilatéral, au niveau du commerce, le corridor
Alors,
sud.
Oui, si vous voulez, on va revenir spécifiquement sur ce point. Pensez-vous que le président ghanéen pousse aussi ses pions dans les pays de l'Alliance des États du Sahel parce que son pays a des intérêts sécuritaires et économiques à défendre?
Absolument. Je pense que c'est bien joué de la part du président ghanéen. Le fait de quand même avoir contribué à parlé avec les trois chefs d'État de l'AES. Je pense que c'était bien indiqué. Et je pense aussi que le fait que le Ghana, qui quand même est le premier producteur d'or africain, et vous n'êtes pas sans oublier que le Mali et le Burkina sont de très importants producteurs d'or en Afrique, notamment troisième et quatrième, que non seulement cela, mais pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sont producteurs d'or. Donc je pense que le fait que les pays se parlent au niveau du commerce et des investissements, cela est une très bonne chose. Mais vous savez aussi qu'il n'y aura pas de paix sans développement et que la crise au Sahel s'est métastasée et que actuellement le Golfe de Guinée est très menacé par la lutte contre les groupes terroristes et les groupes armés aussi. Donc je pense que cette lutte ne peut avoir de solution sans une coopération sous-régionale et une coopération régionale. Donc je pense que c'est l'objectif du président ghanéen de circonscrire un peu cela. Je crois qu'il a quelques soucis avec à certaines de ses frontières, notamment avec le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et je pense aussi que mieux vaut prévenir que guérir, et il vaut mieux se concerter comme la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est en train de le faire, de mener des exercices conjoints au niveau de la défense, mais aussi il faut aller vers plus de sécurité, mais aussi de développement en même temps.
Merci Modibo Mao Makalou. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr. Et on referme à présent notre série de reportages dans les monts Simandou, en Guinée, où les autorités veulent exploiter d'ici 2025 les plus grandes réserves de minerai de fer de haute qualité au monde. Mais comment ne pas reproduire les erreurs faites avec l'exploitation de la bauxite? Ce minerai essentiel à la fabrication d'aluminium est automatiquement exporté sans être transformé. Mais les revenus que l'État en tire sont donc plus limités. Quand sera-t-il pour le faire de Simandou? Alexis Bédu, vous revenez de Guinée-Conakry et sur place, certains s'interrogent sur les retombées réelles pour l'économie du pays et sa population.
Oui, à commencer par ce commerçant de Conakry. Dans l'arrière-boutique de son magasin, il préfère être discret, surtout pour parler du Simandou, projet central pour la junte au pouvoir, alors ce Guinéen a une soixantaine d'années, et l'impression d'assister avec la mine de fer au même scénario qu'avec l'extraction de la bauxite dans le nord du pays, à Boké.
Il y a combien de sociétés minières à Boké? Il y a presque une vingtaine. Allez-y voir comment vit la population. Ils n'ont même pas d'eau propre, ni de maison, ni de route. Que ça a rapporté? Mais que c'est Simandou? C'est du vent, c'est du vent.
Alors impossible de savoir combien rapportera réellement le projet Simandou puisque les conventions minières signées n'ont pas été publiées. Les autorités tablent sur des rentrées fiscales entre 600 millions de dollars par an. Cela va transformer la Guinée selon l'économiste Mohamed Camara qui reste toutefois attentif à la gouvernance du projet.
Il faut avoir une capacité managériale très forte pour ne pas que ce projet souffre des mêmes maux que les projets miniers en cours de développement en Guinée. Il faut tirer les leçons des échecs, des différentes conventions, des mines, parce qu'on a compté sur ça depuis 60 ans. Voilà où nous en sommes. Et on rectifie ça dans le Simandou, pour que Simandou tienne sa promesse.
La question de la transformation du minerai en Guinée, Alexis, est centrale.
Hein. Oui, mais la bauxite n'a toujours pas sa raffinerie dans le nord du pays. Et pour le Simandou, beaucoup réclament une aciérie. C'est prévu, assure le ministre du Plan, Ismaël Nabé.
Le premier pilier, c'est l'industrie. C'est pour la transformation, pas seulement les produits agricoles, mais des produits miniers. C'est ça l'aciérie, au niveau de la bauxite, au niveau du fer. C'est la transformation industrielle, c'est ça l'objectif du chef de l'État.
Alors depuis quelques années, la production de bauxite explose, 150 millions de tonnes par an, mais comparativement, les retombées économiques ne dépassent pas les 500 millions de dollars annuels, faute de transformation. Agui Bouli est directeur général d'IBS, une entreprise sous-traitante du minier Rio Tinto Simfer sur le projet Simandou.
Il a été clair et aux partenaires et aux différents investisseurs dans le secteur minier que l'investissement dans la transformation locale sera clé. C'est pourquoi dans le projet Simandou, il y a pour la première fois une aciérie et on a aujourd'hui un gros push du côté du gouvernement pour permettre aux sociétés dans la bauxite d'aller vers la première étape de la chaîne de valeur qui est la production d'alumine.
Alors, l'immense majorité du fer de Simandou sera toutefois exporté vers la Chine qui, via son entreprise Bao Steel, a investi 6 milliards de dollars dans le projet et qui se remboursera en matières premières.
Merci Alexis Bédu. Votre dossier complet sur le projet Simandou à lire et réécouter sur notre site internet et sur nos applications. Fin de cette demi-heure africaine réalisée, préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond et Cécile Périard. Merci à eux. Et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain, Nicolas Sûr. Vous restez avec nous sur RFI. Dans une minute, le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Deux autres options si vous êtes en Afrique de l'Ouest. Une demi-heure d'information en full day ou bien en portugais si vous êtes en Afrique lusophone. À tout de suite.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Émission spéciale sexualité avec la sexologue Noëlle Caillarcy.
Vendredi.
Question de femmes, question de parents, les soins du bébé.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème de demain.
Que faire après le ski? Ce loisir réservé à l'élite menacé par le réchauffement climatique. De la Chine à l'Amérique en passant par la France, faut-il préserver la neige à tout prix dans les années à venir?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.